Chapitre 9. La colère de Prométhée. Prométhée est terriblement seul sur son rocher, mais il n'en souffre pas encore, car il est en proie à une colère sans bornes. Il se débat et s'écorche aux chaînes qui l'emprisonnent. Il hurle et ses cris se répercutent en écho d'une paroi à l'autre des montagnes et s'abîment dans les précipices. Mais soudain, alors qu'il retient son souffle, il entend venant du fond du ciel un étrange bruit. L'air sec des montagnes s'emplit aussitôt d'une vapeur salée parfumée d'iode. Quel est ce claquement? On dirait de gigantesques battements d'ailes, se dit-il. Prométhée voit apparaître un char tiré par un griffon aux ailes immenses. Océanos, mon oncle, quel immense voyage as-tu fait pour arriver jusqu'ici? Tu as quitté tes vagues et tes grottes marines et ta compagne Thétis et vos 3000 enfants fleuves pour venir sur ce sommet aride? Viens-tu assister à mon supplice ou t'indigner de mon sort? Mon pauvre Prométhée, dans quel état es-tu? Comment un dieu si riche de qualité est-il devenu un maudit? Je ne veux pas de ta pitié. Tu ne peux mettre en doute mon affection. Je suis ton oncle, et depuis que j'ai reconnu tes qualités, je suis attaché à toi comme à un ami. Ah, l'amitié, on sait ce que ça vaut. N'étais-je pas l'ami de Zeus? Le visage du vieil Océanos est empreint de tristesse, mais sa voix est ferme. Il faut que tu m'entendes, Prométhée. Je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots, tu le sais. Si tu continues à invectiver ainsi Zeus, les tortures que tu endures aujourd'hui te paraîtront douces en comparaison de ce qu'il peut t'infliger par colère. Parce que je tiens à toi, je te demande de maîtriser tes paroles, d'endurer en silence un châtiment qui n'est pas totalement injuste. Et j'irai alors auprès de Zeus plaider ta cause. C'est inutile. Tu ne réussiras qu'à l'irriter. Si tu exprimes ta compassion pour moi, tu t'en feras un ennemi. C'est inutile. Prométhée, tu ne pourras pas m'empêcher de tenter de persuader Zeus de te délivrer. Ne commets pas cette folie, mon oncle. Tu as eu l'intelligence de te tenir à l'écart lors de la guerre contre les titans, alors reste à l'abri, et moi je vais continuer à endurer ma peine. Je vois que tu es plus sage pour les autres que pour toi-même. L'espace d'un instant, sur les traits de Prométhée, Océanos voit un désespoir infini. Je te remercie, Océanos, mais tu ne pourras rien contre le tyran sans pitié qui est à présent le maître du monde. Ne te mets pas en danger. Océanos, désolé, remonte dans son char. Le griffon à bec d'aigle secoue sa fourrure rousse et gratte le roc de ses serres puissantes, tandis que les muscles de ses pattes arrière, qui sont celles d'un lion, frémissent sous l'effort. Ses ailes démesurées se soulèvent, faisant tourbillonner la poussière. Vas-tu écouter mon conseil, Prométhée? Lequel? Celui de te taire. Et pourquoi? Le cœur du roi de l'Olympe s'amollira peut-être, à moins que le coup que lui portera son fils l'amollisse définitivement. Que dis-tu? Quel fils? Rien, rien, Océanos. Pars, ne retiens pas ton griffon. Au revoir. Les jours passent. Prométhée subit le froid glacial et le soleil brûlant, le vent qui dessèche, la pluie qui ruisselle sur les reins. Comme chaque jour, après avoir hurlé, sans fin sur son rocher. Il s'est assoupi. Il n'a pas entendu le pas léger de la femme qui est près de lui soudain. Eh bien, Prométhée, te voilà bien arrangé. Héphaïstos ne t'a pas raté. En voilà des chaînes dignes des enfers. Tu ne risques pas de t'échapper. Tu ne dis rien. Tu me reconnais, n'est-ce pas? Je suis Pandore. La surprise est si grande qu'en effet il reste sans voix. Pandore retire le voile qui couvre sa chevelure. Permets que j'étende mon voile sur toi pour que tu ne sois pas gêné par ma présence. Voici donc les chaînes que tu as préférées à celles du mariage que te proposait Zeus. Tu m'as refusé, moi, la femme parfaite offerte par les dieux. C'est très impoli, tu sais. On ne refuse pas les cadeaux. Chacun est libre de ses choix. Je suis d'accord, mais j'aimerais qu'un jour tu m'expliques pourquoi tu n'as pas voulu de moi. Oh, pas aujourd'hui ni demain, nous avons le temps. Il paraît que tu es là pour 30 000 ans. À ces mots, Prométhée serre les mâchoires, mais Pandore ne semble pas le remarquer. Ne crains pas de me parler, je suis à présent ta belle-sœur. Épiméthée, ton frère, m'a voulu pour femme, lui. Sois heureuse autant que tu peux avec ce nigo, qui réfléchit toujours après coup. Pandore se penche sur Prométhée et crie « Ne parle pas ainsi de mon mari !» Et dis-moi, ta brillante intelligence t'a-t-elle rendu plus heureux que lui? Toi qui prévois tout, soi-disant, pourquoi es-tu là? Tu devrais cesser de tirer sur tes chaînes et de taper des poings et des pieds sur ce rocher. Tu es tout ensanglanté. Ta voix est rauque. On m'a dit que tu hurlais sans cesse contre Zeus. Tu l'invectives jusqu'à l'épuisement. Pourquoi ? Crois-tu que Zeus m'a dompté ? Comment peux-tu demander pourquoi je me révolte ? Ne suis-je pas victime d'une injustice terrible ? De quel droit Zeus me retire-t-il ma liberté ? Pandore s'assied sur une roche près de Prométhée. Elle parle d'une voix ferme. Tu as trahi Zeus par deux fois. Tu devrais t'estimer heureux de n'avoir pas été foudroyé comme ton frère Ménoïtos. Ou bien voudrais-tu porter éternellement le ciel sur ton dos comme ton frère Atlas pour prix de ta désobéissance ? Il a puni mes frères qui l'ont combattu, mais moi il m'enchaîne alors qu'il me doit d'être le roi de l'Olympe. J'ai mis librement ma force et mon intelligence à son service. J'ai combattu 10 ans à ses côtés. Quelle cruelle récompense ! C'est pour cela que tu es en vie, Prométhée. Zeus n'oublie pas ce qu'il te doit, lui. Tu as trahi ta famille de titans pour te soutenir. Cela est entendu. Mais lorsque les hommes lui ont offert un taureau en sacrifice, tu les as incités à le tromper. Et tu as ri de voir Zeus se laisser abuser, comme s'il n'avait pas déjoué ta ruse. Non content de l'avoir ainsi bafoué par la suite, tu as trahi le ciel étoilé en dérobant le feu à la roue du soleil. Tu croyais pouvoir te moquer indéfiniment de lui ? Non. Je savais que pour avoir distribué le feu aux hommes, je serais châtiée. Pandore ne dit rien. Sur le chemin, elle accueille des feuilles et des branches. Elle tresse quelque chose que Prométhée ne voit pas. Il ne demeure pas longtemps silencieux. Il a besoin de parler. Il est si seul. Il aimerait qu'elle le regarde, mais son visage reste penché, caché par ses cheveux. Peut-on me reprocher d'avoir pris la défense du plus faible ? Les hommes avaient faim. Je leur ai conseillé de manger la viande du sacrifice. Ils avaient froid et peur du noir, je leur ai apporté le feu. Toujours penché sur son ouvrage, Pandore répond d'une voix calme. Prométhée, je ne sais pas si tu es tout à fait sincère. Tu as défié Zeus par plaisir aussi, avoue-le. Avant ces histoires d'humains, j'ai soutenu le faible Zeus quand il était sur le point d'être vaincu par les titans. Ah, il n'était pas si fier, le dieu tout-puissant. Mais je vais te dire une chose, les puissants détestent qu'on leur rappelle qu'on les a aidés. Zeus craint peut-être que... Prométhée perd son calme. Les montagnes répercutent l'écho de sa voix. Zeus sait très bien que jamais je n'ai pensé à le détrôner. Le pouvoir ne m'intéresse pas. Il n'a pas le droit de me prendre ma liberté. Pas le droit ! Pandore lève la tête et pose sur ses cheveux noirs la couronne de clématite qu'elle vient de terminer. Ainsi parée, elle est divinement belle. Zeus a tous les droits, Prométhée. Et toi, tu te crois meilleur que tu l'es. Je reprends mon voile, je vais partir. Pourquoi reprends-tu ton voile ? Laisse-le-moi. Je n'aime pas être ainsi exposé nu. Zeus te veut nu et enchaîné sur ce rocher. J'obéis. Je déteste ceux qui obéissent. Au revoir, Prométhée.